carnet de voyage. Une invitation. Ooh, can't
anybody see? Bonjour à tous pour ce nouveau carnet de voyage. Nous recevons Nicolas Fragiacomo. Bonjour Nicolas.
Bonjour Gilles, bonjour à tous et je suis très heureux de revenir pour la quatrième fois.
Ouais. Alors cette fois-ci, on te reçoit pour le désert de l'Atacama, qui est frontière entre le Chili, la Bolivie et le Pérou.
Oui, c'est une énorme distance de désert.
On va rappeler, en effet, tu es notre invité favori. Hein.
Merci.
Notre invité émérite, notre grand voyageur.
Quand je reviens.
Ouais. Mais jusque-là, tu es toujours revenu.
Oui, ça devient de plus en plus dur.
Alors, je rappelle qu'on avait fait l'Oural polaire avec toi, on avait fait la Laponie, on avait fait la Mongolie avec les dresseurs d'aigles.
Exact.
Tu vas repartir dans le désert d'Atacama, là, au printemps.
Mais là, je suis rentré il y a quelques jours de mon petit immersion dans le Grand Blanc de la Laponie.
Et oui, et la Laponie finlandaise, je crois.
Finlandaise, oui.
Parce qu'il y a X Laponie.
Il y a une Laponie, et puis après, il y a des pays qui sont installés dedans.
Alors, tu as aussi fait des previews au Népal. Tu as des préparations,
Oui, ça y est, on a fait ça l'année dernière.
Tout ça, ça va se faire cette année. Tu vas faire. Il resterait la Mauritanie que j'adorerais que tu fasses, parce que moi-même j'y avais été.
Oui, j'adore. Ouais, les premiers voyages sont partis dès que la Mauritanie s'est réouverte au public français. On a réussi à remplir des séjours. Sans problème. Et là, depuis le confinement, l'engouement est un petit peu moins...
Est retombé.
On a une ou deux personnes qui s'inscrivent sur les séjours, donc ils sont annulés à chaque fois.
Tu es plutôt globalement montagne et neige. Tes destinations sont plutôt ça.
Moi, c'est mon milieu favori, oui.
Donc l'Atacama, c'est du désert, évidemment en altitude. Mais pourquoi est-ce que tu avais choisi cette destination au départ?
Ben, justement, pour l'altitude, pour l'éloignement, quand on est entre 3500 et 5000 mètres d'altitude pendant une quinzaine de jours, on est en montagne, je te le promets.
Ah oui.
Même en plein été, les températures de la nuit peuvent descendre relativement clémentes, moins 5, moins 10. Et en journée, on a des écarts, on remonte à des 15, 20 degrés sans problème.
Et j'avais compris qu'on pouvait monter à des températures extrêmes sur le désert lui-même, plus de 50 degrés.
Alors oui, mais pas la période où on y va.
Pas en automne quand tu y as été.
Non. Oui, c'est plutôt printemps austral, donc c'est la fin de leur hiver. C'est pas encore tout à fait le début de l'été, donc c'est au niveau des températures, c'est encore très très confortable.
Il faut rappeler bien sûr que c'est le désert le plus aride sur Terre, donc c'est le plus inhospitalier au monde. Oui. J'ai compris qu'il était pauvre en azote.
Et là, tu as dû prendre des relevés plutôt terrain, sol. Au niveau de l'air, c'est exactement le même qu'on respire quand on est au Népal ou dans n'importe quel milieu d'altitude. Oui, c'est pareil.
Peut-être la précaution ultime, c'est la forte lumière.
Ouais, c'est du fait d'être en altitude, complique un petit peu les choses. Et puis ce désert blanc qui renvoie la lumière, oui, il faut se protéger très très sérieusement. Ouais.
Et pour la photo, puisque on rappelle que tu es photographe, bien sûr. Oui. Pour la photo, ça change quelque chose? Tu as des lumières très crues, je suppose.
Bon, dans la journée, c'est un peu difficile. Quoique, il y a certains endroits, certaines lagunes qui change de couleur que pendant la période justement où le soleil est le plus haut. Donc voilà, on essaye de s'adapter. Puis c'est ça aussi l'intérêt de nos voyages, c'est justement de découvrir des choses qui ne sont pas celles de chez nous.
Tu m'as dit qu'évidemment on croisait très peu de monde, donc ça c'est lié un peu à l'altitude, à l'isolement.
Oui déjà, et puis à notre façon de voyager, c'est-à-dire que là on aime bien aller où il n'y a personne, donc déjà en plus on s'éloigne encore un peu plus des centres touristiques, quand c'est possible.
Et le centre touristique le plus proche, c'est à combien de kilomètres?
Le plus proche et le plus connu, c'est San Pedro de Atacama, donc, qui est un petit village au milieu du désert de l'Atacama, côté chilien. Et après, on va en Bolivie, on ne peut même pas parler de village, il y a quatre maisons, de temps en temps, on est tranquille.
Quand on passe de Chili à Bolivie, on a des postes frontières.
Alors il y a des postes frontières, ça se passe en général bien. Mais c'est assez compliqué parce que c'est surtout les Boliviens qui sont assez contraignants parce qu'ils ferment les frontières de telle heure à telle heure. Et puis administrativement, ils sont un peu tatillons, quoi, des vrais douaniers.
Mais surtout que tu dois faire l'aller-retour, je suppose, non ?
Non, pas du tout. On fait un circuit, c'est une grande boucle. On rentre, on arrive à notre premier arrivé contact du désert, c'est San Pedro. Et on passe plusieurs jours à San Pedro pour monter en altitude et redescendre pour l'acclimatation. Hein, parce que, à la différence d'un trek au Népal où on part pratiquement du bas et on monte progressivement en altitude pour s'acclimater, là on arrive à San Pedro, on est à 2005 du premier coup. Et dès qu'on fait une heure de voiture, on est à 3500, 4000. Donc, il faut s'acclimater sérieusement pour éviter des gros soucis, quoi. Donc, pour compléter ta question, donc on part de San Pedro et puis après on rentre en Bolivie et on va aller chercher les lagunes d'altitude et on ressortira de la Bolivie presque 300 km au nord pour rentrer au Chili.
Ah voilà, tu rentres au Chili, mais bien plus loin, quoi.
Exactement.
Et tu repars du point où tu es arrivé en avion, quoi, en définitive.
Pas tout à fait, non. On arrive à un petit aéroport qui est à côté de San Pedro. Et on repartira d'un autre aéroport de la ville de Erika, qui est la ville frontière avec le Pérou au bord du Pacifique.
Et ça, c'est des petits porteurs, c'est des petits avions
c'est des petits aéroports. Là, les distances sont tellement immenses au Chili, hein, parce que le Chili, c'est un pays de tête. Je crois qu'on est dans les plus de 5000 km de long. De large, c'est très étroit.
Ouais.
Et par contre, ils utilisent beaucoup l'avion parce que les moyens de transport, ils existent terrestres, mais... C'est des jours de transport autrement.
Alors tu parlais de lagunes, donc on a la Laguna Verde qui est emblématique et qui est au pied d'un volcan.
Le Licancabur, et donc c'est notre premier contact avec la Bolivie. Donc on arrive à cette lagune qui est à 4005 d'altitude.
Ah quand même.
Ouais. Oui, c'est...
C'est énorme.
Le soir quand tu vas faire les photos au coucher de soleil, on met des gants et une grosse doudoune.
Ouais.
Et donc cette lagune, elle a la particularité de changer de couleur lorsque le soleil et le vent, en fonction de l'heure de la journée et de l'ensoleillement, elle change de couleur pour devenir un vert fluo. C'est incroyable.
Justement, les couleurs que tu as en automne, évidemment, ne sont pas les mêmes que tu as en printemps.
On est en train de mettre en place un séjour justement pour l'automne bolivien, au printemps de chez nous.
Oui, c'est ça.
L'automne bolivien, le printemps austral. Et donc, la particularité, c'est qu'à cette période-là, les lacs sont remplis d'eau après les chutes de pluie de l'été. Et donc, les salars, ce sont des miroirs à perte de vue où il n'y a plus de notion de perspective, tout se mélange, le ciel, la terre, les nuages, on ne sait plus où on est. Quoi. C'est incroyable.
Ça doit être magnifique. Ouais.
Ça l'est.
Il y a d'autres choses exceptionnelles, comme par exemple les geysers del Tatio.
Oui, c'est ça.
C'est vraiment des geysers ?
Ah oui, ouais, alors c'est pas les gros geysers comme au Canada.
Ouais.
Comme au Canada où
à Yellowstone.
Au Canada, il y en a deux ou trois qui font 2-3 mètres de haut, mais ceux-là, ils ne sont pas très hauts, quoique en fonction de la période. En fait, c'est un phénomène qui se passe au début du jour, quand la nuit a été très froide. L'eau chaude qui sort de la terre sort en pression et fait monter de la vapeur d'eau et des colonnes d'eau très haut dans le ciel. Ça, c'était assez impressionnant. Et plus la température se réchauffe et moins haute monte la colonne.
D'accord.
Mais bon, ça fait des photos assez incroyables, ouais.
Et il y a tout le temps cette colonne qui monte ?
Tous les matins. Ouais, ça fait lever assez tôt. Ça fait partie de notre période d'acclimatation, puisqu'on part de San Pedro. Et donc, on monte sur les geysers, enfin, aux alentours du lever du soleil, là, à 6 heures du matin.
J'ai vu sur Internet quelque chose qui s'appelle la Piedra del Coyote.
Oui.
Il y a une photo avec quelqu'un qui est assis au-dessus d'une vallée, sur une roche qui avance dans le vide.
C'est la vallée que l'on appelle la vallée de la mort. Là. C'est très, très beau.
Ouais. Et ça, vous y êtes passé aussi ?
On y passe. Ouais, c'est le premier jour de photo. On est là, on passe la journée dans cette vallée. Ouais.
Et cette roche était extrêmement rouge.
Elle est très, très rouge et archi friable. Donc, à une époque où il n'y avait pas de protection, les gens marchaient partout. Donc, il y a eu pas mal de détérioration. Maintenant, il y a des chemins d'accès qu'il faut éviter de sortir. Mais oui, ces couleurs sont top. Quoi. En tant que photographe, poser la question pourquoi je vais là-bas, c'est les plus belles couleurs de la planète.
Évidemment, en fin d'émission, on laissera ton site sur lequel on peut retrouver toutes les photos. Il y a des tonnes de photos sur l'Atacama.
Toutes les photos que j'ai mises sur le site, parce que j'en ai...
Oui, à chaque fois, tu en ramènes 3000 ou 4000.
Beaucoup.
Sur le site, tu en mets une centaine quand même.
À peine. Ouais.
Ouais, à peine.
J'essaye de restreindre.
Mais on retrouve le renard.
Ah oui, le renard, ton Zorro.
On retrouve on retrouve les salars, on retrouve plein de choses.
Absolument, ouais.
Alors, on va faire une petite pause avec une musique chilienne, évidemment, hein, où on va retrouver de la quena, cette espèce de flûte qui est le symbole du souffle du vent sur l'altiplano. Mmh. Donc c'est évidemment, ça nous met dans l'ambiance.
Oui.
Et en deuxième partie, on va parler plutôt de l'environnement, la notion environnementale du Chili et de ce désert.
Mon ami chilien qui m'a accompagné au Népal m'a joué de cette flûte sur une bosse du Népal. C'était très émouvant. Ouais.
Ça aurait été bien que tu enregistres, non ? Il faudrait enregistrer ce genre de choses.
J'étais tellement ému par le moment que je ne sais pas faire ça. J'y pense même pas. Je suis un égoïste.
Rebonjour amis auditeurs, nous sommes toujours avec Nicolas Fragiacomo, toujours dans le désert de l'Atacama. Alors on va parler un petit peu des enjeux environnementaux. J'ai vu qu'il y avait des décharges à ciel ouvert. Toi tu m'as dit que tu ne les as pas vues en définitive.
Alors moi je ne suis pas spécialiste de cette branche-là. Après nous dans notre circuit on va dans des endroits qui sont...
Reculés
et puis bon qui sont assez protégés parce que par des parcs.
Oui, parce qu'il y a des parcs nationaux.
Il y a des parcs nationaux, oui, absolument. Mais bon, on est dans le parc national, on est surtout au Chili, en Bolivie, pardon. Celui du Chili, la partie Atacama du Chili, on n'y va pas trop. C'est exploité par les mines et donc c'est des accès très, très sécurisés.
Ouais, très réservé. Tu m'as parlé d'exploitation de mines de lithium.
Oui.
Qui vont servir pour nos voitures électriques.
Ben, les tiennes, peut-être.
Oui, la mienne. Alors, il faudrait qu'on parle notamment des espèces endémiques. Je crois qu'il y a plus de 300 espèces endémiques. Et la floraison, on les appelle les géophytes. Et la floraison aura lieu certainement au printemps quand tu vas y retourner, quand il y aura plein d'eau. Alors, tu vas aller voir.
Alors, cette floraison a lieu à un endroit très précis du désert d'Atacama, qui est le désert d'Atacama de mémoire. C'est quand même 3500 km de long, donc on va pas partout. Et cette floraison a lieu plutôt près de l'océan. Et ceux qui ont eu la chance de les voir sont quand même assez rares parce qu'il faut qu'il pleuve. Et le jour où il pleut, c'est presque tous les 10 ans. Et donc c'est le jour où ça va fleurir.
Ah ouais.
Donc, il faut vraiment être à l'affût de cette journée-là. Donc moi, je n'ai pas eu l'occasion de voir ce phénomène. Ouais.
Tu as vu certainement, comme moi, les photos extraordinaires de violettes, de roses, de jaunes.
Avec des fleurs endémiques exceptionnelles. Ouais.
Ouais, les nolanas, je crois, les iulis. Ouais. J'avoue que je rêverais de voir ça, un désert fleuri.
Tout le monde.
Ouais, tout le monde.
Tout le monde.
Alors, il y a une incroyable biodiversité, hein, on s'en doute.
Oui, c'est incroyable de voir, parce que quand on est sur l'altiplano, entre 3005 et 5000, hein, c'est notre quotidien pendant une dizaine de jours. Il pousse rien. De temps en temps, il y a un petit brin d'herbe là qui dépasse entre deux rochers, et il y a une faune incroyable. Les vigognes, les petites viscaches, c'est ce petit lapin qui ressemble à plein d'autres bestioles.
Oui, qu'on voit sur ton site. Hein.
Oui, ça ressemble un petit peu à un lapin. C'est un rongeur hein, qui a des dents de marmotte, des pattes de kangourou, une queue d'écureuil, en fait. Ouais.
Ouais, c'est un mixte.
C'est un mixte.
Ouais. Un hybride.
Avec des yeux, on a l'impression qu'il est toujours en train de dormir, alors que c'est très, très vif.
Et on peut le voir passer en se promenant?
Ah ben là, il y en a...
C'est comme les marmottes.
C'est comme des marmottes, oui.
Ouais. Du coup, tu peux, à la limite, l'appâter un peu pour le faire venir près de toi. T'as pas le droit, mais bon.
Ben, c'est pas un problème de droit, c'est un problème d'éthique. Donc ça, tu ne verras jamais faire ça. Mais oui, non, il n'y a aucun intérêt à l'appâter. Il est là, donc c'est une approche douce et respectueuse du milieu qui permet que les animaux reviennent nous voir.
Et tu n'en as pas ramené un en mascotte, non?
En photo, ça suffit largement.
Mais en peluche, peut-être, non?
Peluche.
Ils les vendent en peluche?
Ont, ouais. Non, ils n'ont pas de peluche. Non, pour eux, c'est des rats, hein, ça fait des trous partout.
Ah ouais, d'accord. Alors, je crois qu'il y a aussi plein de flamants roses.
Oui.
Ça, tu en as vu à profusion.
Mmh.
Ah, oui. Ils sont vraiment roses?
Ils sont vraiment roses, oui. Quand les adultes sont vraiment roses, les jeunes ont des couleurs un peu grisâtres, mais dès qu'ils sont adultes, ouais, c'est beau, oui.
Et ils se sont adaptés, auto-adaptés à l'altitude aussi,
ouais. Ben, ils sont adaptés à l'altitude et puis au milieu, parce que nous, on va les voir dans une période très favorable, mais quand en plein hiver, il fait moins 30, moins 40 dans la lagune, ben, ils gèlent les pattes au milieu et puis ils sont obligés d'attendre que ça dégèle autour, quoi,
pour
pouvoir aller un peu voir ailleurs s'il fait meilleur.
Oui, comment est-ce qu'ils peuvent survivre en définitif à des températures aussi basses?
Ben, je ne sais pas, ça m'épate.
Ouais.
Moi, je rentre dans la Laponie où il faisait moins 40, je te garantis que... On s'est bien couvert et puis on n'est pas resté dehors très longtemps.
J'ai vu sur une de tes photos sur le site un espèce de petit animal jaune qui ressemble terriblement à un renard.
C'est lui, c'est le renard.
C'est le Zorro.
C'est le Zorro. Le Zorro, c'est le nom du renard en espagnol.
Et tu as pu le voir pendant le...
Oui, on le voit assez régulièrement, oui. Mmh. Bah, il se régale des viscaches, donc s'il y a des petits lapins, il y a du renard pas loin.
Et ça fait un terrier, un renard ?
Oui, bien sûr, oui. C'est le même, quelques bricoles près, c'est le même animal que le nôtre.
Ça ressemblerait peut-être une adaptation aussi qui virerait vers le fennec, oui, le renard du désert.
Ben c'est plutôt un renard du désert, oui. Quand,
ouais.
Avec moi la couleur du poil. Et,
Moi que j'avais vu le fennec, je l'avais vu à Angoulême, dans un zoo, tu te rends compte. Je ne l'ai pas vu en Mauritanie ni quoi que ce soit, je l'ai vu là-bas, en France.
Non, les zoos, ce n'est pas trop les endroits où...
Évidemment, tu as pendant ce voyage quelques petits imprévus, notamment un jour où un orage a menacé et ça t'a amené vers un hébergement fabuleux.
Un voyage sans imprévu, c'est pas un voyage.
Voilà.
C'est plein d'imprévus. Le voyage, il commence à partir du moment où tu fermes la porte de la maison jusqu'au moment où tu reviens et il peut tout se passer. Et puis là, bon, c'était pas un gros imprévu, mais bon, il faut savoir s'adapter. Et on avait prévu de bivouaquer au bord d'une lagune et la météo a vraiment changé. On voyait arriver l'orage, ça commençait à claquer un peu dans tous les sens. Donc avec Eduardo, mon ami guide chilien, on a décidé qu'on ne ferait pas dormir nos participants sous la tente comme c'était prévu. Et donc d'où l'intérêt de voyager dans des petits groupes. C'est qu'on a pu aller voir un berger qui avait des petites cabanes à côté de sa bergerie et donc il nous les a prêtées pour nos participants. Nous on a dormi sous la tente parce que bah, c'est un peu ce qu'on recherche aussi, un peu les conditions compliquées.
Ouais.
Et puis voilà, on a passé une soirée avec Don Alberto dans Alberto. Donc c'est un berger qui a 75 ans. Il vit seul au milieu de l'altiplano. C'est des conditions très rustiques. C'est respect, quoi. Mmh. Il nous a accueillis dans son petit cabanon. On a passé une soirée extraordinaire.
Il vit combien de temps ? Toute l'année ? Ou il fait une pause ? Il s'en va ?
Alors, avant, il habitait toute l'année. Et ses enfants... habitent à la ville maintenant et donc pendant la mauvaise période, il oblige à descendre un petit peu les voir. Ouais.
À aller les voir, ouais. Et il a quoi ? Il a un troupeau de quoi ?
Alors lui, il a un troupeau de moutons et d'alpagas.
Ah ouais.
Alpaga lama. Donc c'est. Et quelques moutons. Il vit avec ce troupeau. Et dans des conditions très, très difficiles.
Hein. Oui, très spartiates.
Parce que les prédateurs... il y a le puma qui est un prédateur très redoutable et qui se régale bien des moutons. Et, donc il faut qu'il y surveille très attentivement son troupeau. Ouais.
Et il a droit à des filets de protection, à des patous, à des tirs préventifs. Malheureusement, ce n'est pas le même...
Pour ça, je te conseillerais d'aller voir le film de mon ami Jean-Michel Bertrand.
Ouais, je l'ai vu. On a fait une émission. J'ai fait une émission avec Jean-Michel sur son dernier film.
Il va tout expliquer. Il est beaucoup plus calé que moi pour ça.
Et tu vois, j'allais te demander, mais tu viens de me donner la réponse. L'animal qu'on voyait sur tes photos avec deux oreilles très courtes, c'est le puma. C'est une espèce de félin.
Les gens qui ont vu des pumas, ils se comptent sur le doigt d'une main. Tu vois où il est passé parce qu'il reste des cadavres. Mais pour voir l'animal, c'est encore une autre paire de manches. Ouais.
On va parler de tes projets. Donc le prochain, c'est au printemps l'Atacama à nouveau.
Oui.
Tu m'as dit que tu avais refusé la transhumance de chameaux au Kyrgyzstan.
Oui, c'est douloureux comme décision. Mais bon, ouais, l'année dernière, j'ai fait énormément de voyages. Donc il faut se poser la question aussi de l'indice carbone qu'on dépense. Et celui-là, il était en trop cette année.
Ouais, ouais. Donc tu souffres, là.
Oui.
Enfin bon, par contre, tu vas refaire un voyage sur lequel on avait déjà fait une émission. C'est les aigliers de Mongolie.
Oui.
Les dresseurs d'aigles.
Ce voyage, ça y est, il est garanti. Donc ça veut dire qu'on a le nombre de personnes minimum inscrites sur le séjour. Donc on partira au mois de septembre. Je crois qu'il restait deux places encore de dispo pour un voyage septembre. Donc, On est serein. Et quand je dis « on », donc c'est ces jours-là que j'ai la chance d'encadrer. Je peux les faire que par la confiance de l'agence qui m'emploie, là, qui est Terre Oubliée. Donc une petite agence, c'est pas une petite agence, c'est une belle agence qui est à Lyon et qui fait des séjours vraiment hors du commun. Ouais.
Oui, des séjours préservés en petit comité.
Petit groupe.
Ouais, petit groupe.
Petit groupe dans des endroits où les autres ne vont pas, ça c'est garanti. D'où l'intérêt, c'est pour ça qu'on a pu aller chez ce berger, dont Alberto, là, parce qu'on était un petit groupe de 6 et que c'est plus facile à gérer des imprévus que quand on est un groupe de 15 ou des fois plus pour certains autres séjours.
On laisse aussi, enfin ça, les auditeurs peuvent le retrouver sur ton site, tout ce que tu fais pendant l'hiver ici dans le 05. Tu fais une tonne de randonnées, notamment pour voir les chamois.
Oui, alors il y a, sur mon site, j'ai un peu modifié ma façon de proposer des séjours. Aujourd'hui, je travaille beaucoup à la demande, c'est-à-dire que je vais monter le projet avec une ou plusieurs personnes qui ont envie de faire quelque chose de précis. Et on va monter notre projet ensemble, donc c'est du clé en main.
Ça, on peut le décider à partir du site.
Le site donne des idées.
Ouais.
Si
et après, on te contacte.
On se contacte et puis on met en place la réalisation du projet.
Ton site, c'est nicolasfragiacomo.com.
Toujours.
Tout attaché. Hein.
Oui, tout attaché, ouais.
Merci Nicolas de parcourir la planète pour venir nous la raconter. C'est surtout ça qui compte, que tu nous la racontes.
Merci Gilles, pourvu que ça dure longtemps, j'adore.
Ouais, j'espère. À bientôt.
Merci beaucoup. Au revoir à tous.
Carnet de voyage. Une invitation. Ooh. Can't anybody see?